Le festiver des scènes d'Avignon approche à grands pas et à cette occasion, au Théâtre du Chêne Noir, nous allons pouvoir découvrir la nouvelle création de la compagnie de Raidens, Les derniers jours de Pierre, un conte contemplatif pour marionnettes à fil ponctuées de brèches noires. Voilà la définition que j'ai pu lire sur le site de la compagnie, Léa Guillec. Vous êtes collaboratrice à la mise en scène et puis surtout vous êtes manipulatrice. Vous n'êtes pas toute seule d'ailleurs à la manipulation de ces marionnettes. Il est né comment ce conte contemplatif à la base ?
Comment il est né ? Il est né d'une idée entre un rêve et une sorte de flash pour Baptiste sur le retour du festival des marionnettes de Charleville-Mézières en 2021 où on était allé jouer la Dame Blanche. On a vu à cette occasion-là beaucoup de spectacles de marionnettes qui tendait plus vers l'abstraction, la matière, etc. Et au final, je crois qu'on n'a même pas vu un spectacle de marionnettes pures. Et Baptiste était un peu chagriné de ça, parce qu'il a l'amour de la marionnette et de sa représentation depuis longtemps. Et il avait une idée, un thème, une vision qui traînait depuis un moment, qu'il voulait potentiellement faire en court-métrage, qui était la base de cette histoire-là, de l'histoire de Pierre, qui lui restait en tête depuis un an ou deux. Et là, sur le retour, dans le camion, pendant les 9 heures de camion pour revenir à Avignon, s'est dessinée l'entièreté de la trame de ce conte contemplatif, qui est donc l'histoire d'un homme qui marche en hiver seul et qui arrive à l'orée d'un village.
Alors, le personnage s'appelle Pierre, et je dirais qu'il évolue dans un univers très minéral. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'univers de Jean Giono, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur les hauteurs des Alpes de Haute-Provence, et qu'on a ce personnage qui déambule dans les sentiers, au milieu d'une nature qui est quand même assez splendide, mais assez aride, assez austère, d'une certaine façon.
Oui, la notion de paysage est très importante dans ce spectacle, puisque c'est un spectacle sans texte, rappelons-le. On est en effet totalement en Provence, ou en Haute-Provence. Il y a ces paysages là avec beaucoup de cyprès par exemple, des petits sentiers et une nature qui est en hiver, donc qui est comme endormie et sans feuillage.
Moi j'ai trouvé qu'au moment on retrouvait un peu des décors façon crèche.
Ça peut faire écho à ça dans le sens où on est en Provence, on est dans un moment qui n'est pas daté aussi. Le spectacle est atemporel comme la grande partie de nos spectacles. Donc il y a beaucoup cette chose-là des vieilles pierres du côté village, feu de bois, hiver, et donc on peut y retrouver une inspiration. Oui, ça peut faire penser à la crèche.
Il y a aussi le thème de l'errance, puisque ce personnage, Pierre, il marche, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Est-ce que l'idée de la migration, qui est un thème très actuel, vous a effleuré ?
Alors, je pense que ça peut être une des interprétations, une chose qui peut venir en tête du fait tout simplement qu'il y ait cette marche qui n'a pas de début ni de fin, a priori. Mais ce n'est pas un thème qui a été à l'origine de la création du spectacle.
Alors, c'est un spectacle avec des marionnettes à fil. Alors les marionnettes à fil, vous aviez utilisé dans Chimera, il me semble. C'est une technique très très particulière. Est-ce que là aussi la technique est arrivée tout de suite à l'esprit de Baptiste ?
Alors au tout départ, on n'avait pas la technique, on avait vraiment l'histoire. Ce qu'on voulait raconter, les intentions et les émotions. On avait le chemin émotionnel qu'on voulait emprunter. Et on avait aussi tout de suite le besoin très très fort du contraste extrême entre l'espoir et le désespoir, entre l'accomplissement et la destruction, l'autodestruction. Voilà.
Est-ce que la marionnette à fil permet plus de précision que d'autres techniques ?
Alors, la technique de la marionnette à fil, et notamment de la marionnette à fil long, puisque c'est cette technique-là qui est la technique principale du spectacle, elle permet surtout, je dirais, l'effacement total et absolu du marionnettiste, puisque nous sommes donc dans un dispositif qui s'appelle un castelet, où les marionnettistes sont situés en hauteur par rapport à l'image que les spectateurs et spectatrices pourront voir, et nous sommes totalement cachés par la devanture du castelet. Donc les fils, cette grande distance qui nous sépare de la marionnette, permettent en fait que la marionnette semble totalement autonome et non manipulée. Donc ça crée une forme qui est éminemment poétique, puisque détachée du réel. Après, en termes de précision, c'est très difficile à dire. La marionnette à fil est plutôt considérée comme une technique difficile et justement non précise, parce qu'on a souvent l'image des marionnettes à fil avec peu de fils qui sont manipulés peut-être dans des cadres amateurs ou de rue, etc. Donc elle est très exigeante, cette technique, et pour réussir à avoir des rendus précis, ça demande beaucoup de travail.
Alors là, vous avez utilisé le terme castelet. Alors le castelet que vous avez monté, ça n'a rien à voir avec Guignol. Hein. C'est quand même très très impressionnant. C'est même un édifice presque monumental, avec simplement une case au milieu, qui représente d'ailleurs presque un écran de cinéma. Je dis un écran de cinéma parce qu'en fait, le conte avance sur 10 tableaux, et suivant les tableaux, les cadrages, les échelles ne sont pas les mêmes. Par moment, on a du panoramique, par moment, on a du plan américain, et par moment, on a presque du gros plan. Donc à chaque fois, les marionnettes changent.
Oui, alors c'est très intéressant de le souligner, merci, parce que c'était dans notre volonté. Comme je l'ai dit au tout départ, ce spectacle, ça aurait aussi pu être un film. Et quand on l'a créé, on a vraiment fonctionné comme si on allait créer un film en pensant par plan. On a beaucoup parlé de plan, d'échelle, de cadrage aussi, de déplacement du point de vue. Et par exemple, pour donner une idée claire aux spectateurs, spectatrices, le personnage de Pierre, on n'a pas une seule marionnette pendant le spectacle pour le représenter, mais on en a 6, avec des échelles différentes. On en a un tout petit quand on veut le représenter au milieu d'un grand paysage. On en a une très grande pour voir vraiment les détails du visage. En fait, vraiment, en fonction de ce qu'on montre, on change l'échelle des marionnettes, mais aussi des décors. Et c'est ça qui va permettre vraiment de zoomer dans l'image ou de prendre du recul.
Ces changements de tableau, ces changements de plan, ils se font selon un mécanisme, je dirais, une machinerie particulièrement impressionnante, hein, même si elle est cachée au public. Cette machinerie, elle existait déjà ou elle a été vraiment inventée par les Dry Dance pour ce spectacle-là ?
On a tout conçu et fabriqué. Certainement qu'on n'est pas à l'origine de l'idée. Je pense que c'est des choses qui ont déjà été faites, certainement, mais dans d'autres cadres, dans d'autres registres et pour d'autres besoins. Mais en effet, ça demande beaucoup de machinerie, ce spectacle. C'est un spectacle qui est très technique pour nous. Cette machinerie, on la cache du public parce qu'on veut vraiment centré sur l'image, le propos et la simplicité du développement de celui-ci. Mais derrière, ça implique vraiment des poulies, des rails, des drisses et toute une équipe aux manœuvres comme si on était sur un grand bateau.
Tout à l'heure, je parlais de Jean Giono par rapport à la description des paysages. Mais chez Giono aussi, il y a une âpreté au niveau des personnages. Ça peut être même très violent, même très, très cruel. Cet aspect de l'œuvre de Giono, cet aspect qu'on peut attribuer à Giono, on la retrouve aussi quand même dans cette histoire.
Oui, on est sur des figures qui s'expriment quasiment uniquement par leur aspect esthétique et extérieur. Du coup, dans ce genre de spectacle, qui est une sorte de mise en œuvre de création d'œuvres plastiques, le moment de la construction a été très très important puisque c'est à ce moment-là que Baptiste a figé tout ce que renverront les marionnettes. Ensuite, c'est leur évolution dans les paysages, avec la musique, avec le développement et leur confrontation avec les brèches noires qui va nous donner plus d'informations. Mais il y a quelque chose de très à la fois réaliste et brut dans ces visages.
Vous avez cité les brèches noires. Alors les brèches noires, on ne va pas tout raconter, mais elles sont hors cadre d'une certaine façon. C'est très surprenant, c'est même assez déstabilisant. C'est un peu votre marque de fabrique aussi. Hein. Vous aimez bien caresser, puis de temps en temps, tac, on pique.
Oui, alors les brèches noires, en effet, on a nommé ça brèche noire horrifique, voilà, pour être totalement clair sur la situation. Ce sont en effet des irruptions scéniques violentes, des coupures dans l'histoire de Pierre, qui interviennent non pas au sein du Castelet dans notre fameux écran de cinéma, mais à l'avant-scène, en fait, entre les spectateurs et l'histoire de Pierre et le Castelet. Et ce sont des moments assez brefs, enfin, qui durent entre 30 secondes et 1 minute 30 à peu près, et qui sont dans un registre esthétique totalement différent, puisque là, on n'est pas du tout dans des décors, on n'est pas du tout situé dans un paysage, etc. Ce sont des choses qui sortent du noir, qui émergent de la matière noire, qui peuvent être des matières abstraites, des formes plus anthropomorphes, des évocations. Et lors des brèches noires, le son est très important. S'il y a une matière, il y a une texture dans le son. L'éclairage aussi est très ciblé, très choisi. Et ces choses-là, en fait, qui n'ont pas de lien direct dans ce qu'on peut déduire de prime abord avec l'histoire de Pierre, sont des symboles, des choses qui vont en fait réveiller l'imaginaire du public pour essayer de saisir, comme dans un rêve ou un cauchemar, les choses qui habitent peut-être l'intérieur de Pierre ou l'image qu'on peut se faire de ce qui est à l'intérieur.
Dry Dance a proposé plusieurs types de spectacles, carrément une pièce de théâtre comme Les souffrances de Job, d'après une pièce d'Enoch Levin. Il y a eu un spectacle jeune public, il y a eu un cabaret avec Nick Talope. Quelle étape vous avez l'impression d'avoir franchi avec ce spectacle, qui est quand même une très très grosse production, mine de rien, qui en même temps repose sur presque du pointillisme?
Je dirais que Le dernier jour de Pierre, c'est comme la fin d'un cycle. C'est un spectacle qui vient mettre un point finale à une recherche qu'on a depuis un bon moment sur le spectacle sans texte, sur le spectacle représenté, sur le symbolisme et sur le fait de pousser à saturation les contrastes. Parce que, comme tu l'as dit, on travaille depuis longtemps sur les contrastes, que ce soit entre le grotesque et le tragique, entre le poétique et le concret, quoi, le pragmatique. Et là, on a essayé d'aller jusqu'au bout, vraiment, de la question du désespoir, ce qui est un sujet pas facile à traiter. Et c'est la première fois qu'on le fait de manière totalement... Ouais, je pense qu'on peut dire totalement premier degré, dans le sens où il y a évidemment toutes les distances, qui sont les distances poétiques, esthétiques, symboliques, qui vont faire en sorte que c'est une œuvre théâtrale et pas un...
Les brèches ont un côté titanisant, mais la deuxième brèche, par exemple, on est habitué et ça devient presque pas drôle, mais on aborde ça avec un certain sourire.
Oui, oui, bah, on a toujours notre petite dose d'humour noir et de potentiel cynisme là-dedans, mais disons que le propos est quand même assez clair. Et quand on se rapproche de la fin du spectacle, Baptiste a voulu être en tout cas sans concession sur les images à montrer et sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'alternative.
Et qu'est-ce que Léa Guillec a appris en termes de manipulation ? Parce que je connais la metteur en scène, je connais l'interprète, je connais l'autrice. Bon, je vous ai vu déjà manipuler des marionnettes à fil. Mais là, effectivement, c'est dans quand même un contexte très, très sophistiqué.
Oui, alors ce qui est toujours un défi dans les spectacles qu'on monte, c'est qu'on ne se repose jamais sur une technique acquise. C'est-à-dire qu'on change de propos, mais on change également de technique. Donc là, par exemple, la marionnette à fil long, c'est la première fois qu'on se frottait à ça. C'est-à-dire que pendant le chemin de création et de résidence qui a duré quasiment 2 ans, on a aussi dû apprendre une technique, l'apprivoiser pour le spectacle. Donc on a appris à manipuler des marionnettes à fil long, on a appris à les sortir du castelet, à les rentrer très vite, à travailler en hauteur, à faire des allers-retours entre le haut et le bas, parce qu'il y a des choses à manipuler aussi pour les brèches noires en rez-de-chaussée, et je fais partie de cette équipe-là aussi. Et puis aussi, on a appris tout un tas de choses techniques sur le montage-démontage d'une structure telle que celle qui a été construite par Nicolas Potra, donc la base du Castelet qui est faite à partir d'un échafaudage, disons-le, sur les mécanismes, les poulies et tout un tas d'autres choses.
Si on prend les souffrances de Job, c'est un spectacle qui mobilise un certain nombre de personnes. Et là, j'ai assisté à un filage avec le Castelet, mais qui n'était pas masqué. Et là, j'ai quand même assisté pendant un peu plus d'une heure, ou un peu moins d'une heure plutôt, un formidable travail d'équipe quand même. Il y a une cohésion assez exemplaire.
Oui, alors c'est sûr que c'est...
Combien d'ailleurs ?
Alors au plateau, on est 6. 4 personnes en hauteur et 2 personnes en bas, avec des allers-retours un petit peu permanents. C'est un spectacle qui ne peut se gérer qu'en équipe. Et en fait, c'est très millimétré, c'est-à-dire qu'il y a l'image, il y a ce que les gens voient, mais nous, derrière, on a toute une sorte de balai de choses à faire et qui se répondent les unes les autres. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse ensemble, on se croise en haut, en bas, et on est totalement dans une gestion technique de notre outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout comme quand on joue une pièce de théâtre où on a aussi le souci de sa propre image qu'on renvoie sur scène, de comment on interprète, de soi vis-à-vis des autres. Là, on est vraiment ensemble, tous dans le même bateau, ou plutôt toutes dans le même bateau. Du coup.
Une forme de gageure aussi, parce que vu la taille du Castelet, vous avez besoin d'un grand plateau. Alors qui dit grand plateau dit grande salle, et en même temps toute l'action est circonscrite sur un cadre qui fait la taille d'un grand écran plat, si j'ose dire. Ouais. C'est quand même assez contradictoire, c'est presque une gageure.
C'est en effet, on va dire qu'on aime pousser les contrastes aussi jusqu'au bout dans la forme. C'est un spectacle qui est un peu un spectacle précieux, je pense, dans le sens où on a voulu vraiment mettre des grands moyens au service d'une image qui est très condensée, et on aimerait dans l'absolu pouvoir le jouer devant un nombre de spectateurs assez réduit. C'est-à-dire que l'expérience des spectateurs, spectatrices soit vraiment très forte et très proche de ce qu'on a voulu donner. Mais en effet, on a besoin d'une grande scène et on veut pas beaucoup de spectateurs, spectatrices. Donc on va beaucoup jouer.
Lorsque j'ai assisté au filage, c'était à la fin de l'été, au Théâtre du Chêne Noir déjà. Le grand débat entre vous, c'était les jumelles. Donc, est-ce qu'il y aura des jumelles pour les représentations du dernier jour de Pierre ?
La réponse est oui, il y aura des jumelles. En tranchant la poire en deux, on va confier des jumelles aux spectateurs, spectatrices qui seront à partir du premier tiers de la salle, on va dire, à partir du moment où on perd un peu de détails parce qu'on est loin. Donc cet outil permettra au public de pouvoir profiter pleinement de ce qui se passe dans ce fameux écran, Les brèches noires, il n'y en a pas besoin. Mais c'est plutôt voilà, pour voyager aussi dans tout le travail des textures, des matières, de la création de ces décors que ces jumelles vont être importantes. Donc c'est nous qui les confierons au public grâce à une collecte, entre autres, qu'on a faite sur les réseaux sociaux et par mail, etc., qui a bien fonctionné. Les gens nous ont beaucoup aidés pour l'acquisition de cet outil. Et pour le premier tiers du public qui est le plus proche de la scène, on ne confiera pas de jumelles parce que les yeux seront amplement suffisants.
Oui, nous sommes au pôle marionnette de Dryden sur l'île de la Barthelasse, derrière l'agent Baptiste qui est dans son atelier. Il travaille toujours sur pierre ou alors il est passé à autre chose ?
Alors, on ne passe jamais à autre chose avant la première d'un spectacle, mais disons qu'il y a plein de choses en même temps, puisque là, donc, il est en train de donner le stage d'accompagnement à la création marionnette à fil à différents artistes qui viennent pour réaliser une marionnette dans le cadre de leur projet personnel. Donc, c'est un stage qui demande beaucoup d'attention vis-à-vis de chaque personne. Mais à partir de 18h, la seconde journée commence et les finitions sur le dernier jour de pierre continuent.
À la fin janvier au théâtre du Chêne Noir alors.
Oui, au plaisir de vous y retrouver. Merci.